Vous êtes sur le chemin mémoriel du parachutage du 10 avril 1944, de Séméac à Calavente.
Ici Londres. Les Français parlent aux Français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. L'araignée a tissé sa toile. Je répète, l'araignée a tissé sa toile.
Le 10 avril 1944, la BBC diffuse ce message. L'araignée a tissé sa toile. C'est le top départ pour un groupe de résistants. La mission d'André Noguès, Charles Ourquet, Jean Fossery, Jean Dazayous, Candido Buisan, Roux d'Orayan et Andy Meyer, récupérer des conteneurs de plus de 150 kg rempli d'armes, de munitions, mais aussi de matériel médical, de nourriture ou d'argent. Cet épisode est raconté par André Noguès, un texte lu par Chloé et Elisa, collégiennes à Séméac.
Ce fut une expédition. Chacun d'eux, armés d'une mitraillette, nous partons à pied après l'heure du couvre-feu, par la côte des Aisnes où nous rencontrons un jeune Séméacais très surpris de voir cette expédition.
Au moment de placer les trois feux en triangle, une lampe électrique manque. Elle sera remplacée par l'éclairage électrique d'un vélo. Quelle belle nuit et quel beau spectacle!
Tous font partie du réseau Hector, créé par le Bureau des opérations spéciales, les services secrets britanniques, avec une mission précise, mais extrêmement risquée, que nous décrit Thomas Ferrer, professeur d'histoire.
Il y a vraiment une volonté de démoraliser l'occupant, démoraliser les Allemands présents en France. Multiplier comme ça les actions en France permettait de mobiliser des troupes allemandes sur le territoire qui ne pouvaient pas aller combattre éventuellement contre les soviétiques ou sur d'autres fronts. Si on est arrêté sur un terrain de parachutage où les conteneurs sont là, on est interrogé, torturé. On va être déporté plutôt vers Buchenwald, vers Mauthausen pour certains. Il y en a quelques-uns qui vont en revenir, d'autres non.
Les membres du réseau sont de tous âges et de toutes professions. Beaucoup sont d'anciens prisonniers de guerre, évadés, à l'image de Louis Baillac. Sa fille Annie nous raconte son évasion.
Ils sont partis à Troyes et ils ont marché pendant 11 nuits. Ils ne pouvaient marcher que la nuit. Ils ont été poursuivis dans la forêt rhénane plusieurs fois. Et la dernière fois, l'un des deux a été rattrapé. Ils n'ont jamais su ce qu'il était devenu.
Les membres du réseau vont réceptionner au total une dizaine de parachutages de conteneurs dans les Hautes-Pyrénées. Des terrains qui ne sont pas choisis au hasard.
On a un terrain qui est relativement bien dégagé. Il y a des zones donc boisées qui sont à proximité du terrain et qui ont permis justement au groupe d'André Noguès de se dissimuler pour rejoindre le terrain de parachutage, mais aussi de pouvoir rapidement dissimuler les conteneurs et puis ensuite les récupérer sur des camions pour pouvoir bénéficier de tout ce qu'il y avait justement à l'intérieur de ces conteneurs qui allaient être utilisés assez rapidement dans différents actes de résistance.
Depuis le 11 novembre 1942, les Hautes-Pyrénées sont occupées par l'armée allemande. La répression et la peur y est présente. En témoignent les récits de Joséphine Hernandez, jeune adolescente à l'époque, lue par Julie, collégienne à Séméac, ou bien le témoignage de la fille de Charles Ourquet, Josette.
Les Allemands passaient, alors pour chercher sûrement des résistants, ou voilà, passaient de maison en maison. Mon père était absent, forcément. Ils sont rentrés et ma grand-mère, ne sachant quoi faire, a dit « Vous voulez monter au grenier ?» Alors les Allemands disaient « Oh non, c'est vieux chez toi. » Les Allemands ont dit « Non, non, on veut pas. » Et heureusement, parce qu'au grenier, mon père avait caché les armes. Et ma grand-mère ne le savait pas, bien entendu, parce que si les Allemands avaient trouvé les armes, ma grand-mère était fusillée.
Les sirènes hurlaient pendant tout le trajet. La route était très longue pendant les nuits d'alerte. Les enfants et les adultes, tout le monde était énervé. Lorsqu'il y a une alerte, il faut faire très vite, car ce n'est pas pour rire, et on a très peur.
Malgré le danger, la résistance s'organise et peut compter sur le soutien de Fermami, des lieux pour cacher les armes, comme l'explique Thomas Ferrer.
Et donc là, on va essayer d'aller cacher donc, une partie des conteneurs sous de la paille, sous certains engins. Et puis, on va là aussi venir les récupérer petit à petit quelques jours plus tard.
Parmi ces fermes, il y a celle de Jean Guinle qui fut dénoncée. Sa perquisition est racontée par le résistant André Pérez dans ses mémoires, un témoignage lu par sa fille Maryse.
Il nous dit « Je les ai bien eus, les boches ». Le soir commençait à tomber après une journée chaude. Il nous a menés devant trois paillers en forme de cône. Il nous dit « Dans les deux plus gros, il y a deux tractions, avant cachées. Les Allemands n'ont pas eu l'idée de fouiller, heureusement. »
Trois membres du réseau ont perdu la vie pendant la guerre, Charles Reichenmann, Andy Meyer et le docteur Guigné.
L'un des responsables, Charles Reichenmann, qui, suite à une dénonciation, a été arrêté donc en Charente, puis déporté, et il a été pendu à Buchenwald le 10 septembre 1944. Andy Meyer, qui, lui, avait été parachuté aussi donc, dans les Hautes-Pyrénées, avait été réceptionné par le groupe Hector. Ils ont été arrêtés donc, et pendus tous les deux à Buchenwald. On peut citer aussi pour le réseau Hector le docteur Guigné. Il fera partie donc, des fusillés de Buzet-sur-Tarn.
Aujourd'hui, un chemin mémoriel retrace l'itinéraire parcouru par ces hommes de l'ombre. Ces hommes ont combattu pour la liberté, au risque de leur vie et de celle de leurs proches. Nous vous invitons à marcher sur leurs traces.